90.1 FM. De la bande FM à la bande organisée. De la bande organisée à la bande FM.
Bonjour à tous, c'est Radio Potlatch qui est là aujourd'hui, donc on est là jusqu'à 18h30 et notre thématique sera la jeunesse nihiliste. Et cette fois-ci c'est pas Ernest qui va vous présenter l'émission mais c'est Monsieur Alain Badiou qui vous dit « La jeunesse est volontiers nihiliste aujourd'hui, mais les nihilistes passifs ne peuvent l'embrigader que dans un malentendu provisoire. C'est en vain qu'ils voudront lui transmettre que l'essence de la discordance est la défaite des croyances, la crise des idéologies, le patatras du marxisme. Le nihiliste actif ne valorise que soi. C'est toujours mieux que d'en venir à tolérer le monde. Le nihiliste actif n'hérite de rien. Il n'a jamais cru. C'est toute sa force. Il est particulièrement odieux et particulièrement prometteur. Il dilapide chaque jour les capacités d'existence dont il se déclare expressément porteur. Voilà, le temps de se servir quelques verres de vin et on peut commencer avec la revue de presse. Et cette fois-ci, on ne va pas oublier le beau générique. C'est à vous.
Ok, alors on commence cette revue de presse avec les manifs qui ont eu lieu cette semaine à Bordeaux et ailleurs. Hier, la coordination jeune a appelé à une manif à 15h, place de la Victoire. Alors, on n'a pas trouvé de récit de cette manif, mais c'est pas grave, on a mieux. Minouche, qui est avec nous dans le studio, était justement à la manif d'hier. Du coup, tu vas pouvoir nous raconter.
Voilà, du coup, la manif d'hier, je vais en dire trois mots. On est parti de la place de la Victoire vers 15h30. On a fait un tour assez étrange dans Bordeaux en passant par Saint-Michel, le cours Victor Hugo, le cours Pasteur pour revenir à la Victoire. L'ambiance était plutôt joyeuse, on était 150-200, un truc comme ça. Il y a eu quelques pétards, il y a eu quelques fumis, c'était assez joyeux. Moi, la seule chose qui m'intéresse qui m'interroge vraiment dans cette manif, c'est peut-être le rapport aux flics qu'il y a eu là où, en réalité, la BAC a bien trimballé la manif de droite à gauche. Et alors qu'on n'arrête pas de parler du cortège de tête, tout ça, moi, je pense que c'est une question importante à se poser de savoir comment est-ce qu'on gère ce rapport-là à la police qui finit par diriger nos manifs au moment où les syndicats sont plus là pour le faire. Voilà. Mais sinon, ça reste assez positif, assez joyeux, et c'est à voir ce que ça va donner pour la suite.
Ok, merci Minouche. Toujours à Bordeaux, donc, le FN a appelé jeudi à une manif à Péberlan contre l'accueil des migrants. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées pour une contre-manif. On vous lit le récit de rue 89 Bordeaux.
Solidarité avec les réfugiés contre Français d'abord, clandestins dehors. Entre les deux, un no man's land d'une centaine de mètres. Avec un impressionnant dispositif policier déployé place Péberlan ce jeudi soir, les pour et les contre l'accueil des migrants dans la région sont soigneusement séparés. La centaine de manifestants ayant répondu à l'appel du Front National, en présence d'élus frontistes girondins, est rassemblée devant la mairie, au pied des panneaux de la quinzaine de l'égalité et de la diversité de la citoyenneté. Pour les rejoindre, il faut montrer patte blanche. Un homme, prétextant vouloir manifester pour leur cause, est prié d'attendre que les organisateurs viennent valider son entrée. « C'est compliqué », a répondu le policier à celui qui a voulu ruser pour passer le barrage filtrant. Le parti de Marine Le Pen n'a pas apprécié les annonces du préfet lors d'une conférence de presse le 22 septembre dernier. La Nouvelle-Aquitaine s'apprête à accueillir plus de 900 migrants. Dispatchés sur une dizaine de villes, pas encore désignés, pour 2 à 3 mois, ce qui correspond à la durée de la procédure d'examen des dossiers de demandeurs d'asile. Devant la mairie, avec des drapeaux français à la main, les manifestants crient « On n'en veut pas, on est chez nous ». Sur le parvis des droits de l'homme, l'esprit est tout autre. À l'image des banderoles, « Refugees welcome » et « Pour une société sans peur ». Et les manifestants sont 2 fois plus nombreux. Les deux cortèges ne s'opposent pas vraiment. La seule confrontation a lieu 1 heure plus tard, au moment de l'évacuation méthodique et groupée des manifestants d'extrême droite de la place. À l'angle de la rue Montbazon, une jeune militante des droits de l'homme leur lance « Votre France, j'en veux pas », avant d'entendre fuser tous les noms d'oiseaux.
Le même appel a circulé dans d'autres villes de France, comme hier à Saint-Denis-de-Cabanes dans la Loire. Une 60aine de manifestants FN et 40 contre-manifestants s'y sont rassemblés. La ville se prépare à accueillir 80 migrants de Calais. Calais, où se déroulait au même moment hier une manif interdite par la préfecture. On vous lit le récit du journal Le Monde.
Des échauffourées entre CRS, migrants et militants de No Borders autour de la jungle de Calais, le 1er octobre. Ces affrontements interviennent alors que la préfecture avait interdit en milieu de semaine une manifestation de soutien aux migrants, prévue ce samedi, et qui devait partir de la jungle pour atteindre le centre de la cité portuaire. La Coalition internationale des sans-papiers et migrants, CISPM, avait décidé de maintenir cette manifestation en dépit de son interdiction. Environ 150 manifestants supplémentaires, partis de Paris en bus samedi matin en direction de Calais, ont été bloqués par les forces de l'ordre à un péage autoroutier aux abords de Saint-Omer et n'ont pas pu rejoindre la ville. Vers 15h40, 200 personnes, essentiellement des no-borders et des migrants, se sont rassemblées devant les CRS. Comme le rassemblement était interdit, il a été procédé aux sommations d'usage et les CRS ont repoussé les migrants sur la bande des 100 mètres, qui avait été entièrement démantelée début 2016, à l'intérieur même du camp, a expliqué Étienne Desplanques, directeur de cabinet de la préfète du Pas-de-Calais. Des CRS ont ensuite fait usage de gaz lacrymogène et ont utilisé un engin lanceur d'eau. Les CRS ont subi plusieurs caillassages de la part des migrants et des no-borders. La situation est redevenue calme 20 minutes plus tard, vers 16h, a ajouté M. Desplanques, précisant que 3 CRS avaient été légèrement blessés par des jets de pierre. Ces échauffourées se poursuivaient toutefois vers 17h30, selon un correspondant de l'Agence France-Presse présent sur place. Il était impossible d'entrer et de sortir du camp de migrants au niveau de l'accès principal. Un peu plus loin, des manifestants lançaient des projectiles sur des camions empruntant la rocade portuaire et un véhicule de police a été endommagé, selon ce témoin, qui a entendu des appels radio de policiers demandant des renforts.
Même si l'opération policière de grande ampleur priorisée par le gouvernement semble être celle du démantèlement de la jungle de Calais, la menace d'expulsion de la ZAD est toujours d'actualité. Les habitants de la zone et ses soutiens continuent à organiser la défense du bocage et appellent à une forte mobilisation le week-end du 8. On vous lit cet appel.
Acculé par les mobilisations massives des 9 et 27 février, le gouvernement a organisé en juin une consultation biaisée. Se croyant fort du résultat de cette mascarade, Les pro-aéroports et le Premier ministre ont confirmé leur intention de procéder cet automne à l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses habitats et activités, ainsi que des liens entre toutes celles et ceux qui se sont attachés à ce bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier, puisqu'entre autres, les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées. Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus mesuré la détermination de celles et ceux qui habitent ce bocage. Des militants engagés à leur côté. Le soutien dont ce mouvement bénéficie dans la région et bien au-delà, ainsi que l'implication des communautés locaux. Ces 2000 hectares de bocage et ce qui s'y vit sont aujourd'hui porteurs d'espoir indéracinables face au saccage du vivant, des terres agricoles et à la marchandisation du monde. Il est impensable qu'ils disparaissent. À l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, nous marquerons donc le 8 octobre notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tout démarrage des travaux. En écho à bien d'autres luttes paysannes, comme au Larzac, nous ferons résonner le sol de milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place, en nous engageant ensemble à venir les reprendre en cas d'intervention et à défendre la ZAD, ses habitants, paysans et l'avenir qui s'y construit.
Et la mobilisation du 8 se poursuivra le 9 sur la ZAD pour continuer à se rencontrer, à construire des infrastructures et mieux connaître le terrain. Au programme, des lectures, des chantiers, une fête foraine et des discussions. Et vous pouvez trouver plus d'infos sur le site ZAD Nadir. Cette semaine, c'était aussi le procès des salariés d'Air France qui avaient arraché la chemise du DRH en octobre dernier. On vous lit un extrait de ce qui s'est passé pendant ce procès.
De 2 à 4 mois de prison avec sursis ont été requis aujourd'hui contre 5 salariés d'Air France jugés devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour l'épisode de la chemise arrachée du DRH. Le parquet a également requis 1 000 euros d'amende contre les 10 autres prévenus, poursuivis pour des dégradations lors de la manifestation du 5 octobre 2015 devant le siège d'Air France à Roissy, dont les images avaient fait le tour du monde. Prise à partie ce jour-là, Xavier Brossetta, DRH d'Air France à l'époque, et Pierre Plissonnier, responsable de l'activité long courrier, avaient dû fuir sous les huées, torse nu pour le premier, la chemise en lambeaux pour le second. Ce n'était pas une opération syndicale, mais une opération de casseurs, puis de voyous, a déclaré le procureur Philippe Bourion, reprenant à son compte les termes employés le 6 octobre par le Premier ministre Manuel Valls pour qualifier les militants syndicaux ayant pris part à ces incidents. Bien qu'il ait assuré avoir pris en compte le contexte de ces incidents, survenus après l'annonce de la suppression envisagée de 2 900 emplois, le procureur a estimé que les prévenus avaient bien commis des infractions, les infractions qui leur étaient reprochées, en l'occurrence d'avoir fracturé le portail d'accès au siège d'Air France et pris part aux violences dont les deux cadres dirigeants avaient été victimes. Les 15 d'Air France, dont l'un a été licencié, seront fixés sur leur sort le 30 novembre.
Alors, vous avez parlé il y a 2 semaines de la mutinerie de Vivonne. Dimanche dernier, c'est à la prison de Valence que des détenus se sont soulevés. Comme à chaque fois, les seules informations qui nous parviennent sont celles officielles du ministère de la Justice. C'est donc difficile de rendre compte de ce qui s'est réellement passé, parce que c'est toujours à peu près la même version qui filtre. Des détenus qui s'emparent des clés, mettent les systèmes de vidéosurveillance hors service, ouvrent les cellules et tentent de déclencher un incendie pour, on cite la communication officielle, réintégrer leurs cellules après l'intervention des ERIS, équipe régionale d'intervention et de sécurité, une unité de superflics cagoulés chargée de mater les mutineries. On ne sait rien non plus des revendications des détenus, ni de leur état de santé, après la dite réintégration de leurs cellules. Et on finit cette revue de presse avec le récit de la fâcheuse aventure d'une équipe de télé venue tourner une série dans les rues de Belleville à Paris.
Alors qu'elle enregistrait des séquences de la future série « Une femme d'exception », une équipe de professionnels a essuyé des tirs de mortier de feux d'artifice tenus par une vingtaine d'adolescents. Il pourrait s'agir d'une tentative de racket. Une scène violente s'est déroulée dans la soirée du jeudi 29 septembre en plein Paris, dans le quartier de Belleville, selon les révélations du journal Le Parisien du 1er octobre. Un groupe de jeunes, âgés d'une quinzaine d'années, a attaqué au moyen de mortiers et de feux d'artifice des membres de la société de production CineTV, qui était en train de filmer des scènes de la série Une femme d'exception, qui doit être diffusée prochainement sur la chaîne TF1. Les agresseurs ont également donné au moins un coup de poing à un des techniciens. Au total, 5 de ces derniers ont été blessés dans cet assaut brutal. D'après le journal, la piste la plus plausible serait celle du racket. En effet, quelques heures avant l'attaque, deux jeunes individus étaient venus réclamer de l'argent à l'équipe de CineTV en échange de leur protection.
Merci à Auxilio et Google. Alors, on m'entendait pas, donc c'est pas grave, je vais redire ce que j'ai dit. Je remercie Auxilio et GoGoDance pour leur revue de presse. Et voilà, on va enchaîner avec un entretien d'Alain Badiou sur la question du nihilisme. L'entretien dure à peu près 17 minutes.
C'est toujours, surtout si on le prend au sens de Nietzsche, une manière de donner sens, de donner un sens. Et finalement, on pourrait dire que le nihilisme, c'est la volonté ou le désir paradoxal de donner au monde le sens de son absence de sens, ou le sens de son néant de sens. Je crois beaucoup plus intéressant de situer le nihilisme comme désir ou comme vouloir. Je pense aussi que ce qu'il y a dans la formule de Nietzsche, c'est que le nihilisme est une sorte de préférence ultime, c'est-à-dire que vouloir le néant plutôt que ne rien vouloir. Donc le nihilisme, c'est au fond l'ultime réaction du désir ou de la volonté, juste avant l'apathie complète. Et par conséquent, le nihilisme n'est pas, de ce point de vue-là, si je puis dire, la négation ultime dont l'homme est capable. La vraie négation ultime, c'est l'indifférence. Or, le nihilisme n'est pas une indifférence. Ça, je crois que c'est un point très important. Il continue à être un désir, même si c'est un désir qui est articulé à l'absence de sens. Et puis, la troisième remarque que je voudrais faire sur cette formule de Nietzsche, c'est que il y a en réalité dans le nihilisme une sorte de maîtrise camouflée. Et que le nihilisme, c'est un peu une manière de dire, puisqu'il n'y a rien, eh bien je vais vouloir ce rien. Et de ce point de vue-là, le nihilisme n'est pas simplement un constat ou une observation de l'absence de sens du monde, il est la transformation de ce constat en volonté ou en désir. Et par là, la position nihiliste, on le voit très bien chez les nihilistes véritables, si je puis dire, je reviendrai sur ce point, le nihilisme véritable, Le nihilisme est une position de maîtrise dans la pensée et non pas du tout une position d'abandon, une position passive. À partir de quoi il faut se demander ce que veut dire il n'y a rien ou il y a le néant et comment le nihiliste transforme cela en un désir ou une volonté. Moi, je pense que il n'y a rien ou le monde est néant veut toujours dire en réalité rien au regard de quoi je puisse être sujet. C'est-à-dire rien qui me constitue véritablement comme sujet. Si bien qu'effectivement je n'ai plus d'autres ressources pour me constituer comme sujet que d'être le sujet de ce rien. La figure exemplaire de cet acte, c'est finalement le terrorisme. Je pense qu'en réalité, le nihilisme est quelque chose comme la philosophie du terrorisme. Je pense que ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a eu un nihilisme russe qui s'est articulé entièrement autour du terrorisme et autour d'un désir en quelque manière unique qui était l'exécution du tsar, le meurtre du tsar, et qui indiquait par là même que le nihilisme se réalise dans la figure d'un acte symbolique suprême, où d'ailleurs il s'engloutit lui-même, et où il prend en effet le risque de sa propre mort, dans le service d'un acte symbolique suprême, conçu au fond à la fois comme un acte qui crée ou institue le néant ou la mort, mais aussi toujours en un certain sens comme un acte à partir duquel peut-être il va y avoir de nouveau du sens. Et je pense que le nihilisme actif, c'est toujours quelqu'un qui parie à partir du non-sens, sur un acte qui pourrait éventuellement restituer du sens. D'ailleurs, Nietzsche lui-même, en même temps qu'il polémique contre les figures du nihilisme contemporain, qu'il perçoit chez les disciples et les descendants de Schopenhauer, a toujours affirmé qu'en un certain sens, il était lui-même intérieur au nihilisme et qu'il le portait à sa forme suprême. Or, comment conçoit-il cette forme suprême? Il la conçoit lui aussi absolument dans la figure d'un acte radical, sans précédent, qu'il appelle la transvaluation de toutes les valeurs, ou le renversement de toutes les anciennes valeurs, et donc comme l'accomplissement, en même temps que la négation de la séquence nihiliste, dans un acte salvateur, unique, dont il est à la fois l'auteur et le nom propre. Alors ça, c'est ce que j'appellerais le nihilisme actif. Et je crois qu'il y a un enseignement du nihilisme actif qui est que, en fin de compte, toute disposition du sens suppose un acte. Par rapport à cela, il y a un nihilisme passif, qui est un nihilisme qui consiste à gloser ou à commenter le fait qu'il n'y a rien. C'est un nihilisme que la culture en général aime bien. On aime bien entendre des gens gloser ou expliquer qu'il n'y a rien, que c'est le désespoir.
Comme ça, Cioran, par exemple.
Absolument, Cioran en est l'exemple, mais quelques autres, à gloser sur l'absurde, à entretenir les gens dans la mentalité sans risque, alors là, et aristocratique du néant de toute signification. Ceci ne gêne personne, et tire le nihilisme du côté, non pas de l'acte, mais de l'interprétation. Bien sûr, il y a eu en Russie d'admirables figures féminines du terrorisme, Vera Finier, par exemple, qui a finalement payé cela d'une longue vie de prison. Dans le cas de Sofia Kovalevskaya, ce qui est très frappant, c'est que il s'agit par excellence de quelqu'un qui est dans l'élément du rationalisme scientifique, puisque c'est une très grande mathématicienne. Ceci pour indiquer que nihilisme ne veut en aucun cas dire irrationalisme. Les deux mots ne sont nullement équivalents, parce que il peut y avoir une proposition rationnelle sur le défaut de sens ou sur le néant lui-même. Donc nihilisme et irrationalisme doivent être distingués. Dans le cas de Sofia Kovalevskaya, ce qui est très frappant, c'est que en même temps qu'elle menait son œuvre de très grande mathématicienne, elle s'est elle-même identifiée comme nihiliste. Elle a écrit en particulier un livre qui s'appelle « La femme nihiliste ». Et ce qu'on voit dans ses écrits, c'est que pour les jeunes femmes russes, enfin tout un groupe de jeunes femmes russes de cette période, nihilisme a voulu dire, premièrement, l'univers russe sous la botte du tsar est dépourvu de sens et d'espoir. Et deuxièmement, notre responsabilité singulière, y compris en tant que femme, est de faire advenir une signification quelconque à partir de ce néant. Il y avait, pourrait-on dire, une totale absence de sublimation institutionnelle possible pour les femmes dans la Russie de cette époque, et elles étaient donc particulièrement sensibles à l'idée que pour se réaliser dans l'élément de la liberté, y compris de la liberté féminine, il fallait nécessairement un acte radical. Et ça, c'était une conviction très partagée par toute une série de jeunes femmes russes de cette période, et on retrouve là cette idée qu'au cœur du nihilisme, il y a cette dimension de l'acte extrême qui est émancipateur par lui-même, à la fois émancipateur des autres et émancipateur de soi-même. Il y a une première remarque à faire, c'est que la société contemporaine est en quelque manière objectivement nihiliste, mais de manière passive naturellement, pas de manière authentique. Elle est nihiliste pour la raison fondamentale qu'elle est entièrement dominée par l'argent, et que l'argent, l'abstraction monétaire, est en réalité une figure du néant, ça je le crois absolument. C'est une chose d'ailleurs qui a déjà été signalée par Marx dans la logique du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la circulation monétaire comme principe de régulation est une fausse valeur. Et en tant que c'est une fausse valeur ou une valeur abstraite, elle inscrit le néant au cœur de notre vie sociale. Et par conséquent, le règne de l'argent dans notre société fait que cette société est en quelque manière vouée à une espèce de mécanisme dépourvu de sens qui ne propose à ses agents, à ses acteurs ou aux gens qui sont là que de perpétuer la machinerie en question. C'est-à-dire que de se couler, de se mouler eux-mêmes sous la loi du néant monétaire. Il y a donc ce que j'appellerais un nihilisme structurel, un nihilisme social immédiat, qui agite les corps et qui aussi donne aux âmes, puisque nous avons parlé des corps, une allure à la fois vide et uniforme. Je pense qu'on voit un tel nihilisme se manifester ou tenter de se manifester dans la figure d'une sorte de révolte aveugle, très présente dans le corps social aujourd'hui, et qui affecte en particulier des fractions de la jeunesse, et en particulier des fractions de la jeunesse populaire, enfin, qui subissent de plein fouet, si je puis dire, la dictature du néant monétaire. Mais ce qui se passe, c'est que ce nihilisme est en défaut d'acte. Tout au plus se traduit-il périodiquement, c'est très sensible peut-être plus encore aux États-Unis qu'en France, par l'instinct émeutier. Il y a l'émeute, en un certain sens, c'est typiquement un acte nihiliste, ça je crois. C'est-à-dire c'est un acte dont on se demande toujours pourquoi il est purement et simplement destructeur, mais c'est précisément parce que l'arrière-plan, en quelque manière philosophique, au sens spontané du terme, de l'émeute est le vouloir nihiliste. Je crois vraiment que les jeunes émeutiers sont très précisément des gens qui préfèrent vouloir le néant, c'est-à-dire la destruction, plutôt que de n'avoir à rien vouloir du tout, c'est-à-dire à d'être dans l'apathie et dans la survie misérable. Donc, au fond, je dirais ceci, le monde contemporain est nihiliste par lui-même, de façon objective et aveugle, et par ailleurs, il est marqué de ce que j'appellerais des tentatives d'actes nihilistes sous la forme de la révolte émeutière, mais en même temps, je dirais qu'il n'est nullement propice à une pensée ou à une théorie ou à une doctrine nihiliste. Si, quand on a ici des doctrines nihilistes, elles relèvent absolument de ce que j'ai appelé le nihilisme inauthentique, c'est-à-dire c'est un nihilisme de bavardage, ou de commentaire, ou un nihilisme de salon, c'est-à-dire le nihilisme de quelqu'un qui en réalité se porte très bien dans le monde tel qu'il est, mais qui lui donne son petit ornement ou son petit frisson négatif. Mais en ce qui concerne un nihilisme de l'envergure de celui qu'on trouve soit chez les terroristes russes d'un côté, soit même chez Schopenhauer ou Nietzsche, je crois qu'il ne peut être question dans le monde tel qu'il est, parce que précisément ce monde a fait du nihilisme son mécanisme le plus intime. Notre problème n'est donc pas, à mon sens, directement la question d'une résurrection ou d'une activation du nihilisme authentique. La question est de savoir comment faire ou comment proposer que le monde ne soit pas nihiliste. C'est une toute autre question. Et par conséquent, ce dont nous avons besoin, c'est d'une critique radicale du nihilisme objectif du monde, critique radicale qui elle-même suppose des opérations de pensée, des opérations philosophiques qui sont naturellement en rupture avec la tradition nihiliste. Donc je dirais que nous avons la situation, somme toute, assez paradoxale et assez difficile suivante. Ce que ce monde contient de révolte est spontanément nihiliste. Et cependant, cette révolte ne voit pas que ce contre quoi elle se révolte est déjà nihiliste. Et que, par conséquent, tout le problème est de savoir comment on peut donner sens ou faire naître du sens dans le monde tel qu'il est, autrement que par les voies du néant. La proposition nihiliste selon laquelle il n'y a rien, ou les vieilles valeurs sont mortes, ou le monde est dépourvu de sens, se réfère presque toujours à une ou des époques où il n'en était pas ainsi. Peut-être souvent reconstituées ou légendaires d'ailleurs, qui aurait été l'âge d'or de l'affirmation et du sens. Et ceci explique, à mon avis, que le nihilisme, au fond, balance entre une perspective réactionnaire et une perspective que je dirais ultra-révolutionnaire. Il est dans une sorte d'ambiguïté au regard de ce point. Tantôt, il peut être réactionnaire parce que, au fond, il est entièrement pris dans la nostalgie de ce qu'il croit être les grandes époques du sens du monde. Tantôt il est ultra-révolutionnaire parce que il veut faire revenir le sens par un acte symbolique, radical et suprême. De ce point de vue-là, je dirais volontiers que Nietzsche lui-même est nihiliste, en dépit de sa polémique anti-nihiliste, parce que je trouve chez lui absolument ce balancement. D'un côté, il y a le repérage des grands types affirmatifs de l'humanité, notamment dans la Renaissance ou dans le classicisme ou dans la première Grèce. Et puis, d'un autre côté, il y a la promesse d'un acte radical à travers lequel il y aurait affirmation de nouvelles valeurs. Et je trouve qu'au fond, quand Nietzsche a parlé de l'éternel retour, il a, en un certain sens, donné ce qui est la maxime cachée, la plus profonde du nihilisme lui-même, à savoir quelque chose doit revenir. Quelque chose doit revenir, et évidemment quand on dit quelque chose doit revenir, ou il doit y avoir retour, ou le retour est éternel, on est dans une balance incertaine entre une nostalgie rétrograde et ce que j'appellerais une ultra-promesse.
Je m'y connais en route. J'en ai avalé de la route. J'y ai passé toute ma vie. Cette route, elle n'a pas de fin. Elle doit sûrement faire tout le tour du monde.
Le 17 mars. On continue avec un son qui a été préparé autour des nihilistes russes, et notamment de l'auteur et terroriste Boris Savinkov. Avec la question suivante. Le terrorisme peut-il avoir une justification éthique? C'est la question posée dans Le Cheval Blême, écrit en 1908, roman en forme de journal intime, transcrivant la confession d'un chef terroriste sans foi ni loi qui prépare un attentat contre le gouverneur général de Moscou. Le récit est d'autant plus remarquable qu'il est pour l'essentiel autobiographique. Son auteur, Boris Savinkov, qui avait pris pour l'occasion le pseudonyme Ropchin, étant à l'époque l'un des plus célèbres terroristes russes et le cerveau de l'attentat qui coûta effectivement la vie du grand-duc Serge, gouverneur général de Moscou, le 4 février 1905. Victor Serge, anarchiste devenu compagnon de route des bolcheviks qu'ils déporteront dans l'Oural, a laissé un portrait incisif de Savinkov, adjoint de Kerensky, au ministère de la guerre du gouvernement provisoire pendant l'été 1917. Il dit ceci. Boris Savinkov est ministre de la guerre, figure singulière, très forte, de grand aventurier politique, militant socialiste révolutionnaire, écrivain, romancier, quelque peu poète même, terroriste, bon organisateur. Savinkov est l'une des illustrations du mouvement révolutionnaire. À la tête de l'organisation de combat du Parti socialiste révolutionnaire, il a pendant des années dirigé l'action terroriste d'un parti qui compta des Gershouni, des Kaliaev, des Sozonov, des Balmatchev. Il a minutieusement préparé à l'exécution du grand-duc Serge et du premier ministre Plev, un des serviteurs les plus redoutables de l'autocratie. Il a participé lui-même à ces actions. Il s'est penché dans la rue, terrifié de Petrograd, sur le cadavre de Plev, pour constater sa réussite. Dans toutes ces périlleuses entreprises, il s'est trouvé le collaborateur intime de l'agent provocateur Azef, autre chef de l'organisation de combat. Ce terroriste intrépide est l'auteur de deux romans, Ce qui n'advint pas et Le Cheval Blême, empreint du plus profond désarroi moral, où l'inanité de l'effort révolutionnaire est comme écrite avec du sang. Terroriste professionnel habitué à exécuter des ennemis autant qu'à sacrifier délibérément les meilleurs d'entre ses compagnons de lutte, avec au fond cette absence totale de confiance et de foi en la révolution. C'est bien un homme capable de tout, sauf de comprendre un vaste mouvement de masse et d'apprécier avec justesse les forces sociales en présence. Car nul n'est plus éloigné d'être un chef révolutionnaire que le dilettante. Voici donc une lecture de quelques extraits du Cheval Blême. Mars 1904. Je ne sais pas pourquoi je m'engage dans le terrorisme, mais je sais pourquoi beaucoup y vont. Heinrich est persuadé que c'est nécessaire pour la victoire du socialisme. Fiodor a eu sa femme tuée. Erna dit qu'elle a honte de vivre. Vania, mais laissons-le s'exprimer. Hier, il m'a voituré toute la journée dans Moscou. Je lui avais donné rendez-vous dans une gargote près de la tour Soukarev. Il est arrivé en bottes montantes et sarrau plissé à la taille. Il porte à présent une barbe et a les cheveux coupés au bol. Il dit « Écoute, as-tu jamais pensé au Christ ?»« À qui ?»« Au Christ, au Dieu homme. As-tu pensé à la manière de croire et de vivre ?»« Tu sais, dans mon relais, je lis souvent l'Évangile et il me semble qu'il n'y a que deux voies. Deux voies seulement. L'une, c'est le « tout est permis ». Tu comprends ? Tout. Comme pour Smerdiakov, si l'on ose, bien sûr, si l'on est prêt à tout, car si Dieu et le Christ homme n'existent pas, il n'y a pas d'amour, et donc il n'y a rien. Et l'autre voie, c'est celle du Christ. Écoute, de fait, si tu aimes beaucoup, véritablement, il est alors possible de tuer. On le peut bien, n'est-ce pas ? Je dis,
peux toujours tuer. Non, pas toujours. Tuer est un péché grave. Mais souviens-toi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme pour ses amis. Pas sa vie, son âme. Comprends-le. Il faut prendre sur soi le supplice de la croix. Il faut être résolu à tout par amour. Pour l'amour. Je vis. Pourquoi ? Peut-être pour l'heure de ma mort, je prie. Seigneur, donne-moi la mort au nom de l'amour. On ne peut certes pas prier pour un assassinat. Et une fois que tu as tué, tu ne vas pas aller prier. Je le sais bien. Il y a peu d'amour en moi. Lourde est ma croix. Ne souris pas. Pourquoi te moques-tu et de quoi ? Je prononce des paroles divines et tu vas prétendre que c'est du délire. Tu vas le dire, hein ? Tu vas le dire que c'est du délire ? Je me tais. Souviens-toi, dans l'Apocalypse, Jean dit « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Qu'y a-t-il, dis-moi, de plus terrible que la mort qui fuit loin de toi ? Alors que tu l'appelles et la cherches, tu la chercheras. Tous, nous la chercherons. Comment verseras-tu le sang ? Comment violeras-tu la loi ? Nous la versons et nous la violons. Il n'y a pas de loi pour toi. Pour toi, le sang, c'est de l'eau. Mais écoute-moi donc. Le jour viendra où tu te souviendras de ces paroles. Tu chercheras la fin et tu ne la trouveras pas. La mort te fuira. Je crois au Christ, j'y crois. Cependant, je ne suis pas avec lui. J'en suis indigne, car je suis dans la boue et le sang. Mais dans sa miséricorde, le Christ sera avec moi. Je le regarde fixement et dis « Alors ne tue pas. Abandonne le terrorisme. » Il pâlit. « Comment peux-tu me conseiller cela ? Comment l'oses-tu ? Vois-tu, je vais tuer. Et mon âme est mortellement affligée. Mais je ne peux pas ne pas tuer, car j'aime. Si la croix est lourde, prends-la. Si le péché est grand, prends-le. Le Seigneur aura pitié de toi et te pardonnera. » Vania. Tout cela n'est que sornette, n'y pense pas. Il se tait. Dehors, j'oublie ses paroles. Le 4 octobre. J'ai compris. Je ne veux plus vivre. Mes paroles, mes pensées, mes désirs me remplissent d'ennui. Les gens, leur vie, tout m'ennuie. Entre eux et moi, il y a une barrière. Il y a des limites sacrées. La mienne, c'est le glaive rouge. Enfant, je regardais le soleil. Il m'aveuglait, me brûlait de ses rayons éclatants. Enfant, j'ai connu l'amour, les caresses maternelles. J'aimais innocemment les gens. J'aimais joyeusement la vie. À présent, je n'aime personne. Je ne veux et ne sais plus aimer. En un instant, le monde est devenu maudit et vide pour moi. Tout n'est que mensonge et vanité. Quand le désir existait, j'étais dans le terrorisme. Maintenant, je ne veux plus de terreur. À quoi bon ? Pour la scène ? Pour des marionnettes ? Je me rappelle. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, parce que Dieu est amour. Je n'aime pas et je ne connais pas Dieu. Vania le connaissait. Et encore. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En quoi croire ? Qui prier ? Je ne veux pas de prière d'esclave. Le Christ a pu allumer la lumière par le Verbe. Je n'ai pas besoin de sa douce lumière. L'amour peut sauver le monde. Je n'ai pas besoin d'amour. Je suis seul. Je vais quitter cette ennuyeuse baraque de foire. Et même si dans les cieux s'ouvre le temple, je dirai... Tout n'est que vanité et mensonge. C'est une journée claire et songeuse. La Neva brille au soleil. J'aime sa surface majestueuse. Le sein de ses eaux profondes et paisibles. Un coucher de soleil désenchanté, sombre dans la mer. Le pourpre du couchant rougeois. Les vagues clapotent tristement. Les sapins baissent leurs ramées. Odeur de résine. Quand s'allumeront les étoiles et que tombera la nuit d'automne, je dirai mon dernier mot. J'ai mon pistolet sur moi. »